C'est pourquoi, et c'est intéressant, c'est dans le De Anima que Aristote dit les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Oui, bien, c'est ça que saint Thomas a en vision au point de vue théologique. C'est pourquoi il faut placer dans le Christ une science infuse. Elle consiste en ce que, par le Verbe de Dieu qui lui est uni personnellement, l'âme du Christ reçoit les species intelligibles de tout ce à quoi l'intellect possible est en puissance. Et cela de la même manière que, par le Verbe de Dieu, au moment de la création du monde, sont imprimées les species intelligibles dans l'intelligence angélique, selon la doctrine de saint Augustin. De même donc qu'au dire encore de saint Augustin, il faut placer dans les anges une double connaissance, l'une celle du matin qui lui fait connaître les réalités. Il est de bonne humeur le matin, vous voyez, c'est l'une, celle du matin, qui lui fait connaître les réalités dans le Verbe, l'autre, celle du soir, qui lui fait connaître les réalités, c'est les deux connaissances, ça il faut comprendre ça, c'est la duplex cognitio, una chelichet matutina, per quam cognoscunt res in verbo, cognoscunt res in verbo, alia vespertina. Oui, c'est les laudes et les vêpres. Alors, les laudes, c'est la lumière particulière de connaître tout dans le Verbe. Tandis que vespertina, per quam cognoscunt rest in propria natura, per species sibi indictas. Donc, l'autre, celle du soir, vespertina, qui lui fait connaître les réalités en elle-même par le moyen de species infuses. De même, en dehors de la science divine et incréée, il faut attribuer au Christ une science bienheureuse qui lui fait voir le Verbe et les réalités dans le Verbe, et une science infuse par lui, une science infuse qui lui permet de connaître les choses dans leur nature propre, par les species intelligibles proportionnées à l'esprit humain. C'est très beau comme vision, connaissance, petite synthèse que donne saint Thomas ici. Et il met le Christ, vous voyez, dans son humanité, parallèle aux anges. Très beau. Parce que la nature humaine du Christ, en raison même de l'union hypostatique, va être une nature humaine, elle est une nature angélique. Mais du côté de la connaissance, elle rejoint les anges. Il est roi des anges. Il est roi de toutes les créatures. Et donc il faut du côté de la connaissance qu'il ait cette connaissance que les anges ont. C'est la raison profonde pour laquelle il met le comparaison à la compagnie angélique. Alors, vous voyez le raisonnement, hein? Et vous voyez, c'est intéressant la fin. Parce que dans la fin, saint Thomas montre que le raisonnement qu'il donne là vaut aussi pour le premier acte, pour la précédente. Il y a deux raisons pour l'article précédent, pour la question de la vision béatifique. La première raison, il est l'auteur du salut. La seconde raison, la nature humaine en lui est parfaite. Donc elle atteint sa fin. Alors, la perfection se tient de deux manières. Il y a une perfection qui se tient du côté de la finalité et une perfection qui se tient du côté de l'intégrité. Toujours les deux aspects. On est parfait quand on est arrivé, il vous manque. Et on est parfait quand on atteint sa finalité. Deux aspects de la perfection. Là, la finalité, l'article donc, de la vision béatifique, et quand il s'agit de l'intégrité, tout ce qui en nous est en puissance doit être actué dans le Christ. Or, notre intellect possible, selon la bonne doctrine d'Aristote, canonisée par saint Thomas, l'intellect possible, selon Aristote, peut être déterminé par toutes les species intelligibles, puisque l'intellect possible est le lieu de toutes les formes intelligibles. Il faut donc que l'intellect possible du Christ soit actué par toutes les species intelligibles qu'il est capable de recevoir directement de Dieu. Comme les anges ont reçu ces species intelligibles pour être parfaitement actués, parce qu'ils sont des ennemis. Nous n'avons pas reçu ça. poursuit cette science infuse qui fait que toutes les intelligences, que notre intellect possible soit parfaitement actué. Nous ne sommes pas dans une intégrité intellectuelle. Tandis que le Christ doit être dans une intégrité intellectuelle, donc dans une perfection intellectuelle qui fait que tout ce que l'intellect possible peut être actué soit actué.
Est-ce que ce serait actué comme une connaissance actuelle ou plus comme la mémoire intellectuelle?
Oui, ça revient bien. Je ne peux pas penser immédiatement à tout. Donc nécessairement, le mode humain étant sauvegardé, il pense successivement. Tout ce qu'il veut, mais avec la subtilité de la chose. C'est, il parle de species, hein, il parle de species, c'est l'intellect possible qui est actué. Alors l'intellect possible est actué par les species, il est déterminé par les species.
C'est pour préserver le mode humain de la connaissance qui pose la science, parce que la science des liens neuraux pourrait suffire à
tout. Tout à fait, ça suffirait au point de vue de la perfection finale, mais pas au point de vue de l'intégrité. C'est pour ça que je crois qu'il y a les deux aspects qu'il faut bien saisir. La finalité, l'article 2, l'intégrité, l'article 3. C'est l'intégrité, c'est la perfection de tout ce qui, dans le Christ, peut être actué, qui doit être actué. Or, l'intellect possible est dans l'âme du Christ, cet intellect possible est capable d'être actué par toutes les spécieuses intelligibles. Il est le lieu de toute la terre. Oui, très joli ça. Quand Aristote dit le locus de toutes les intelligibles, c'est comme si Aristote pensait qu'un jour il y ait un homme en qui l'intellect possible soit parfaitement actué par toutes les spécieuses intelligibles. C'est extraordinaire comme vision. C'est... Bon. Oui.
Ça paraît curieux qu'il sépare de cette connaissance divine, quoi, de Christ, le Verbe et puis le.
Non, parce que le Verbe, il est Dieu. Donc, le Verbe, il est à ce niveau-ci. Le Verbe se connaît lui-même de cette connaissance, noesis, noeseos, cette connaissance de la pensée de la pensée. Il est le Verbe, il est Dieu. Tandis que la nature humaine du Christ, elle n'est pas Dieu, elle est assumée par Dieu. Alors, par le fait même, son intelligence, son nous, va avoir la vision béatifique. Et la vision béatifique, voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La vision béatifique, c'est un rapt. Donc il n'y a plus de mode humain de connaissance. C'est un rapt. D'habitude, tant qu'on est sur la terre, le rapt n'existe qu'au niveau volontaire. N'est-ce pas ? Qu'au niveau de l'amour. Quand vous êtes en extase, il y a un rapt. Tant qu'on est sur la terre, nous n'avons pas, et la foi ne nous donne pas ce rapt du côté du nous. La foi maintient notre conditionnement naturel. Tandis que la vision béatifique fait un rapt. Et c'est pour ça que le nous du Christ connaît tout de suite la vision béatifique. Il connaît la science infuse. Et la science infuse ne supprime pas le mode naturel. C'est pas un rapt. C'est un don. C'est pour ça que je dis c'est une intégrité. Il donne toutes les spécifiques intelligibles. Selon un mode qui n'est plus le mode humain, qui est un mode infus. Mais le mode infus ne supprime pas le conditionnement naturel. Il nous donne simplement du côté du don, ces species, quelque chose de particulier.
Les species intelligibles sont du côté du possible, des formes possibles. Qu'en est-il du côté de la contingence, de l'existence?
Non, ce n'est pas du côté des possibles. Les species infusées, c'est à l'égard de toutes les réalités créées. Dieu ne nous communique pas dans la science infuse toute sa connaissance de vision des possibles. Il communique la connaissance du Créateur par rapport à ce qu'il a créé.
Aux réalités passées, aux réalités
passées. Exactement. Tout à fait.
Comme argument, ça demande un peu plus dit que la science des bienheureux n'aurait pas pu rendre raison de la connaissance du contingent. Donc il fallait une autre connaissance. Est-ce que.
Ah non, la science des bienheureux.
Est-ce que.
La science des bienheureux, la vision béatifique. Dans la science béatifique, vous voyez tout en Dieu. Tout ce qui est créé, vous verrez l'origine du monde en fait, dans la vision béatifique. Tout ce qui a été créé est éternel. Donc l'origine du monde.
Simplement, ne distingue-t-il pas dans la connaissance de Dieu, qui est cette première partie, de la connaissance des contingents, la connaissance de Dieu.
Oui, mais faites attention. Saint Thomas distingue dans la connaissance de Dieu la connaissance de simple intelligence et la connaissance qui implique la volonté que Dieu veut créer telle ou telle chose. Alors, c'est pour ça que je dis, la science infuse regarde justement cette seconde connaissance, pas la connaissance des saints individus. La connaissance des saints individus est donnée dans la vision béatifique. Et dans la vision béatifique est donnée, ce que dit saint Thomas, dans la science est donnée la connaissance matutinale. Allons, vous voyez dans le Verbe de Dieu, vous voyez tout ce qui est créé. Et vespertinale, vous voyez chaque réalité dans sa spécieuse forme. Gymnastique, c'est un changement de vitesse, vous voyez. Il faut bien comprendre les deux aspects. C'est très beau ça, la connaissance. C'est très beau que saint Thomas, il respecte la connaissance matutinale, vespertinale de saint Augustin. Il le fait, il l'intègre dans sa vision aristotélicienne, alors que dans saint Augustin, c'est une vision platonicienne. Alors les deux sont mêlés.
Ça correspond à une science et au don de sagesse esthétique.
Oui, un peu. Oui, c'est ça. C'est au fond, la sagesse est au niveau de la vision béatifique. Et vous voyez tout dans la cause première. Et dans la cause seconde, vous voyez tout à propos des principes propres. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que la sagesse est matutinale et la science est vespertinale. L'humanité première était dans la sagesse quand elle était encore vigoureuse. Et quand elle est fatiguée, elle est dans la science.
Quand elle commence, vous voyez, ça c'est la vie montante et ce côté-là. Oui.
J'aimerais qu'il y ait comme un écho de l'acte pur au niveau de la connaissance du Christ, l'acte pur qui n'est plus capable de progrès parce qu'il est parfaitement actué, il n'y a aucune potentialité.
Oui.
Alors là, en fait, c'est un écho parce que toutes les potentialités sont actuées. Mais alors comment, par rapport à la succession du temps, vu que l'intelligence humaine implique des actes successifs.
Oui.
Et donc, j'ai dit, il y a toujours un mouvement de la puissance à l'acte et l'acte à la puissance.
Ah, il y a un double exercice, vous voyez, c'est toujours ce que la fameuse distinction que fait Aristote et que saint Thomas reprend.
Il y a deux manières de passer de l'acte à la puissance. Il y a la manière de la détermination par le point de vue de l'exercice et le point de vue de la puissance par rapport à la détermination. Les deux aspects, il prend tout le temps à propos de la science. Vous voyez. Celui qui est ignorant, il n'a pas la science. Celui qui a la science ne l'arrive pas toujours. Vous voyez ? Bon. Alors, l'imperfection, c'est du côté de la potentialité par rapport à la détermination. Ce n'est pas par rapport à l'exercice.
C'est que ça respecte le mode humain.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que ça respecte le mode humain. Tandis que dans la vision béatifique, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir la vision béatifique, la possibilité de. Ah, c'est fatigant, je vais m'arrêter. Non, vous êtes dans un rapt d'amour qui fait que tout le temps vous êtes pris dans le propre rythme de Dieu. C'est le rythme de Dieu qui s'introduit dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la vie, de la science infuse, Dieu respecte notre modalité et nous donne des spécieuses intelligibles.
Est-ce qu'il peut y avoir encore une fatigue ?
Non, il n'y a pas de fatigue.
aucune, c'est de la jeunesse éternelle.
Comment voulez-vous que Dieu dérive?
Si, et je disais ça par mode métaphorique. Oui.
Moi je pose toutes ces questions-là, je voulais attendre de faire la question, il y a pas la sensation du Christ.
Ben oui, mais non, enfin, attention. Saint Thomas, on peut se les poser tout de suite, puisqu'il pose la question de la science infuse. Vous voyez ? Mais c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi il la pose. Alors après, qu'est-ce que c'est que cette science infuse du Christ ? Il la développe après. Mais, vous voyez, les questions qu'on se pose, c'est de savoir si c'est utile.
toutes les questions qui ont été posées, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'une science ne supprime pas l'autre? C'est ça que saint Thomas montre, que les degrés, ces différents degrés, peuvent coexister et qu'ils ne se gênent pas. Que l'un ne supprime pas l'autre. La science, la vision béatifique ne supprime pas la science infuse. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. C'est l'homme qui atteint sa finalité, c'est l'homme qui atteint son intégrité, et c'est l'homme qui, de fait, est pèlerin. Vous voyez? C'est pour ça que cette question est très importante pour situer exactement les longueurs d'onde que vous avez. Vous voyez? Alors, le contenu de la science infuse, il le donnera après. Mais il situe ici. Bon, alors, voyons tout de suite les objections. Toute autre science comparée à la science bienheureuse est imparfaite. Or, une connaissance plus parfaite est incompatible avec une connaissance imparfaite. C'est ainsi que la claire vision face à face exclut la vision obscure de la foi. Puisse donc que le Christ possède la science bienheureuse, il ne semble pas qu'il y ait en lui une autre science infuse. Vous voyez la différence? La science, la vision béatifique supprime la foi, mais la vision béatifique ne supprime pas la science infuse. Alors, voici la réponse de saint Thomas. La vision imparfaite de la foi exclut par sa nature même la claire vision, car c'est le propre de la foi d'avoir pour objet ce que l'on ne voit pas, ainsi que nous l'avons dit autre part. Mais la connaissance par species infuse ne comporte en soi, non, ne comporte en soi rien qui s'oppose à la connaissance bienheureuse. Le cas n'est donc pas le même. C'est bien évident. Les species intelligibles n'impliquent pas d'obscurité, et donc c'est autre chose. Deuxième objection, le mode moins parfait de connaissance dispose au mode plus parfait. Ainsi, l'opinion basée sur le syllogisme dialectique dispose à la science laquelle se fonde sur le syllogisme démonstratif. Oui, ça c'est bien de l'Aristote. Mais lorsqu'on parvient à la perfection, la disposition devient inutile. Quand on a atteint le but, le mouvement n'est plus nécessaire. Dès lors, puisque toute autre connaissance créée, comparée à la connaissance bienheureuse, est imparfaite, et qu'elle est comme la disposition qui prépare au terme, puisque d'autre part le Christ a possédé la connaissance bienheureuse, il ne semble pas nécessaire de mettre en lui une autre connaissance. Toujours on exclut, pas la peine, une fois qu'on a la connaissance bienheureuse, plus besoin. Réponse. La disposition possède un double rapport à la perfection. En premier lieu, elle est comme la voie qui conduit à la perfection. En second lieu, elle est comme l'effet qui procède de la perfection. Ainsi, par la chaleur, la matière est disposée à recevoir la forme du feu. Et celle-ci étant acquise, la chaleur ne cesse pas pour autant, mais elle demeure à titre d'effet de la forme. Ça, c'est très très joli, c'est la grande loi d'Aristote que saint Thomas reprend ici. Toute disposition conduit à la forme substantielle, et quand la forme substantielle est présente, la disposition devient effet. Ça, c'est très très joli, ça. Ça, c'est l'antithèse, voyez, par rapport à Hegel. C'est très très intéressant. Disposition, forme substantielle, propriété. Vous avez les trois, mais pas du tout dans la perspective dialectique d'Hegel. Du devenir, tout à fait différent. Et je crois que ça, c'est la véritable antithèse qui respecte la finalité. De même, l'opinion produite par le syllogisme dialectique est la voie qui mène à la science, laquelle s'acquiert par démonstration. Une fois la science obtenue, la connaissance par syllogisme dialectique peut demeurer comme une conséquence de la science démonstrative et causale. Car celui qui connaît la cause peut à plus forte raison connaître les signes de probabilité sur lesquels s'appuie le syllogisme dialectique. C'est très intéressant, vous voyez ça? C'est de cette manière que, dans le Christ, la science infuse peut coexister avec la science bienheureuse, non pas comme une disposition à la béatitude, mais comme affermie et confirmé par elle. Oui, alors l'analogie est très très jolie, elle est très intéressante comme analogie. L'analogie entre science bienheureux et science infuse, l'analogie entre la science parfaite et l'opinion. L'opinion, quand on n'a pas la science, l'opinion obtenue par un syllogisme dialectique. Et vous voyez bien que le syllogisme dialectique repose sur les signes. Je peux faire un syllogisme dialectique par rapport à la fin du monde. Ça repose sur des signes. Mais c'est un syllogisme dialectique, ce n'est pas scientifique. De l'ordre de l'opinion. De l'ordre de l'opinion, je dis que, étant donné les signes, on est proche du père. Syllogisme dialectique. Pas syllogisme scientifique, c'est en droit. La science, elle, repose sur un syllogisme scientifique. Et le syllogisme scientifique repose toujours sur les principes et la définition. Alors, l'opinion est nécessaire en vue de la science. Une fois que la science est présente, l'opinion peut être comme un effet secondaire, un rayonnement. La science infuse ne dispose pas à la vision béatifique au sens... peut disposer quand on ne l'a pas. Et quand la vision béatifique est présente, la science infuse est comme un rayonnement. Ça ne s'exclut pas, c'est pas sur le même niveau. Voilà ce que saint Thomas va vous montrer. Le syllogisme dialectique et le syllogisme scientifique ne sont pas sur le même niveau. Ils ne s'excluent pas. Il y a des relations entre les deux. Eh bien, la vision béatifique et la science infuse ne sont pas au même niveau. La vision béatifique réclame une lumière particulière qui l'élève jusqu'à Dieu pour vivre la vision même que Dieu a de lui-même. Tandis que la science infuse fait appel au species. Tandis que c'est le lumen glorié. C'est toute la différence qui existe entre le lumen glorié, ceux qui connaissent un peu le traité de la vision béatifique. Le lumen glorié, et ici c'est les species. Intelligible. Pas la même chose. Les species intelligibles actuent. Détermine mon intellect possible. Le nous possible. Ils viennent actuer tabula rasa. Le nous possible. Tandis que le lumen glorié, lui, donne une nouvelle faculté de connaître. Une nouvelle puissance. Il est du côté de la puissance, du côté de la virtus. Et le lumen glorié vient directement du côté de la grâce, hein, pour transformer le nous et permettre au nous d'avoir une surélévation. Tandis que les species intelligibles ne surélèvent pas le nous. Ce sont des déterminations. Et tandis que le lumen glorié surélève le nous et lui donne justement une possibilité de pénétrer en Dieu. Et qu'est-ce qui détermine le lumen glorié? C'est le Verbe lui-même, c'est Dieu lui-même qui détermine mon intelligence. Oui?
Par rapport à la question que s'était posée sur l'habitude de science infuse, parce que là justement, on ne reviendrait pas à une connaissance comme celle du Christ et d'une science infuse.
Oui, c'est de ce côté-là, c'est vraiment de ce côté-là. Ça fait partie de cette lumière qui est donnée, mais qui ne transforme pas le nous comme tel, mais actue, détermine ses possibilités.
Mais en fait, c'est possible qu'on ait une science analogue à celle que le Christ a eue, une science infuse, ou est-ce que c'est réservé au Christ?
La science infuse a été donnée à des saints, c'est pas réservé au Christ. Vous voyez? Elle peut être donnée. La différence, c'est que le Christ l'a en plénitude, alors que les saints l'ont d'une façon partielle. Oui. Alors, dernière objection. De même que la matière corporelle est en puissance à la forme sensible, de même l'intellect possible est en puissance à la forme intelligible. voyez bien ces analogies. Mais la matière corporelle ne peut recevoir à la fois deux formes sensibles, une plus parfaite et l'autre moins parfaite. Par conséquent, l'âme non plus ne peut recevoir une double science, l'une plus parfaite, l'autre moins parfaite. Il faut donc conclure, comme précédemment, que le Christ n'a pas eu la science infuse. Réponse. La connaissance bienheureuse ne comporte pas d'espèce de species intelligible qui serait l'image de la divine essence et des réalités connues en elle, ainsi que nous l'avons montré dans la première partie. Elle est une connaissance immédiate de la divine essence, car celle-ci se trouve unie à l'esprit bienheureux comme l'intelligible l'est à l'intelligence, par le Lumen Gloriae. Mais parce que l'essence divine est pour la créature une forme disproportionnée, rien n'empêche l'âme rationnelle de recevoir en même temps des species intelligibles proportionnées à sa nature. C'est ce que je viens de vous dire là, la différence entre les deux. Article 4, le Christ a-t-il possédé une science acquise? Alors là, c'est pour perfectionner le pèlerin. Science acquise, c'est le devenir. On va respecter le dernier petit conditionnement, le devenir. Là, on respecte le conditionnement du nous possible. Et ici, on respecte le conditionnement du nous possible alimenté par la sensation et par les images et par l'intellect agent. Il faut que l'intellect agent ait quand même quelque chose à faire en Christ. Alors, et c'est pour que l'intellect agent illumine les images et les fantasmes qu'il y a la connaissance de Christ. Oui, le dernier conditionnement, c'est bien comme un niveau, ça se comprend vraiment dans l'analyse des différents degrés de connaissance. Alors, à ce moment-là, c'est merveilleux, c'est une très belle analyse. Le père Feuillet a écrit un article sur la connaissance infuse du Christ. Vous avez la référence ? Oui, on l'a ici. Vous ne savez pas de mémoire la référence. Et c'est par rapport aux théologiens, il me l'a dit, par rapport aux théologiens que je par rapport aux théologiens qui nient la science infuse du Christ. Et le père Feuillet a voulu montrer que même au point de vue purement exégétique, on était obligé d'affirmer la science infuse du Christ. C'est intéressant de voir ça. Alors donc, c'est l'article 4, la science. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Tout fils de Dieu qu'il était, il a appris par ses propres souffrances à obéir. » Ce que la glose entend d'une connaissance expérimentale. Il y a donc eu dans le Christ une connaissance, une science expérimentale ou science acquise. C'est très intéressant, vous voyez ? C'est très intéressant, parce qu'ordinairement, on prend la science acquise à partir de Saint Luc, quand Jésus avait 12 ans. Saint Thomas ici prend par rapport au mystère de la croix. Donc Saint Thomas reconnaît que la science expérimentale dans le Christ n'a cessé d'augmenter. Jusqu'à la croix. Et ça, c'est très important. Comme on l'a montré plus haut, rien de ce que Dieu a inséré en notre nature n'a fait défaut à la nature humaine assumée par le Verbe de Dieu. Or, il est manifeste que dans notre nature, Dieu a mis non seulement un intellect possible, mais aussi un intellect agent. Il faut donc admettre que dans l'âme du Christ, il y a eu, en plus de l'intellect possible, un intellect agent. C'est sûr. Ce que dit Aristote est vrai. Mais, s'il est vrai, comme l'enseigne Aristote, que dans les autres êtres, Dieu et la nature ne font rien en vain, à plus forte raison en devra-t-il être ainsi pour l'âme de Jésus. D'autre part, est vaine et inutile toute réalité qui n'a pas d'opération propre. Car toute chose n'existe qu'en vue de son opération, comme le dit encore Aristote. De plus, l'opération propre de l'intellect agent, c'est de rendre les spécies actuellement intelligibles en les abstrayant des images. Donc c'est d'illuminer les images. Ainsi, disons-nous au troisième livre de l'âme, qu'il appartient à l'intellect agent de faire intelligible toute chose, toute image. C'est très difficile, l'intellect agent, parce que vous n'avez pas une expérience immédiate. Hein. Vous touchez bien que certains jours, vous êtes un peu plus illuminé que d'autres jours. Il y a des jours où il y a un brouillard opaque, puis il y a des jours où c'est le grand soleil, c'est merveilleux. C'est... Alors ça, c'est l'intellect agent qui joue. Mais vous ne le saisissez pas directement, vous le saisissez par ses résultats. Il y a des jours où l'image est tellement opaque que vous ne faites qu'une seule chose, c'est d'écrire l'image. Puis il y a des jours où, à travers l'image, il y a quelque chose, petite lumière. Ah, c'est l'intellect agent qui marche. C'est les feux du brouillard. Au-delà du brouillard, on saisit quelque chose. Et il y a des jours où le brouillard est tellement opaque, parce que le brouillard, c'est l'imaginaire. Dès lors, nous devons reconnaître que dans le Christ, il y a eu des spécies intelligibles reçues en son intellect possible, par l'action de l'intellect agent. Ce qui revient à dire qu'il y eut en lui une science acquise, ou, comme certains l'appellent, une science expérimentale. C'est pourquoi, bien que j'ai soutenu dans un écrit antérieur une opinion différente. C'est très rare que saint Amand dise ça. Alors vous voyez, recherchez bien immédiatement, c'est renvoyé dans une petite chose. C'est la première chose, c'est le premier saint Amand dans son commentaire des sentences. Livre 3, distinction 14, question 1, saint Thomas enseigne que le Christ a connu toutes choses par science infuse et qu'il se contentait d'appliquer les idées qu'il possédait ainsi aux choses qui lui manifestaient une expérience sensible. Dans la somme, saint Thomas change d'opinion. C'est très beau, hein ? C'est très beau que dans la somme, saint Thomas change d'opinion. Autrement dit, saint Thomas va de plus en plus à montrer que l'homme assumé par le Verbe est dans un état d'intégrité absolue. Il était plus alexandrin dans la sentence et plus antiochien dans la somme, vous voyez, pour montrer que l'homme est davantage présent. Donc c'est pourquoi j'ai soutenu, bien que j'ai soutenu dans un écrit antérieur une opinion différente, l'on doit dire que le Christ a possédé une science acquise. Saint Thomas est libre à l'égard de sa propre opinion. Cette science, en effet, est proprement à la mesure humaine, non seulement sous le rapport du sujet qui la reçoit, mais aussi sous le rapport de la cause qui la produit. On l'attribuera donc au Christ en raison de la lumière de l'intellect agent, qui est comme naturelle à l'âme humaine. Au contraire, la science infuse n'est attribuée à l'âme du Christ qu'en raison d'une lumière qui vient d'en haut. Et ce mode de connaissance est propre à la nature angélique. Quant à la science des bienheureux, la science bienheureuse, qui nous fait voir l'essence divine elle-même, elle n'est propre et comme naturelle qu'à Dieu seul. Vous voyez, ça c'est très beau comme synthèse dernière. Synthèse dernière, vous voyez, cette connaissance, elle est propre à Dieu. Cette connaissance, la vision de Dieu, elle est propre à Dieu. La science infuse est propre aux anges. Et si, elle est propre à l'homme. Vous avez tous les échelons, l'échelle de Jacob. Tous les échelons sont dans l'ordre de la connaissance dans le Christ.